Bonsoir. C'est fait, l'accord de paix de Washington sous l'égide du président américain Donald Trump sera signé dans quelques instants puisque la cérémonie est en cours à Washington ce jeudi 4 décembre 2025 par les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame. Cet accord qui s'appuie sur la déclaration des principes signée le 25 avril 2025 comprend des dispositions notamment sur le respect de l'intégrité territoriale, le désengagement, le désarmement. Les deux parties conviennent aussi de mettre en place un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité pour assurer la surveillance et la mise en œuvre de ces engagements. Au terme de cet accord, un cadre d'intégration économique régionale sera lancé dans les 3 mois visant à développer le commerce, les investissements et la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles. Que pensez-vous de cet accord? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce jeudi 4 décembre 2025. Nous en parlons avec Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques des Nations France, spécialiste en relations internationales. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Aussi avec nous dans cette émission, Bob Kabamba, politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Capi.
Et avec moi dans ce studio, Caris Bassoko, coordonnateur du réseau Pona Congo et membre de la coalition de la société civile pour le dialogue. Caris Bassoko, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en direct sur la chaîne YouTube et le Coltix de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, Kinshasa et Kigali vont entériner dans quelques minutes l'accord de paix censé ramener la paix dans la partie est de la RDC. Cependant, la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante sur les terrains, notamment dans les cités de Katogota et Kamanyola au sud Kivu. Mais quelles sont les grandes lignes de cet accord, Enoch Katumbi?
L'accord de Washington s'appuie sur la déclaration des principes du 25 avril 2025 et comprend 5 volets clés. D'abord, Kinshasa et Kigali réaffirment le respect strict de l'intégrité territoriale et s'engagent à cesser toute forme d'agression ou de soutien aux groupes armés, marquant ainsi la volonté de tourner la page des accusations réciproques. Sur le plan sécuritaire, le texte prévoit un double engagement. La RDC devra neutraliser définitivement les FDLR, tandis que le Rwanda est tenu à retirer ses militaires encore présents sur les territoires congolais. Pour garantir l'application de ces mesures, les deux pays mettront en place un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, chargé de surveiller les mouvements armés et de suivre la mise en œuvre de l'accord. L'accord ouvre également la voie au retour volontaire et sécurisé des réfugiés et des déplacés internes. Les deux États devront faciliter l'aide humanitaire et rétablir les conditions minimales de sécurité pour les populations affectées par les conflits. Enfin, le texte prévoit, dans un délai de 3 mois, le lancement d'un cadre d'intégration économique régionale. Objectif, stimuler le commerce, attirer les investissements et instaurer plus la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles, un enjeu central dans la crise actuelle.
Merci Enoch Katumbi, professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques des Nations en France, des spécialistes en relations internationales. Je l'ai dit dans le sommaire, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame vont entériner dans quelques minutes, parce que la cérémonie est en cours, l'accord de paix de Washington, cet accord qui s'appuie sur la déclaration des principes signée le 25 avril 2025, qui comprend plusieurs dispositions. Vous avez suivi dans le reportage de notre collègue Enoch Katumbi, notamment le respect de l'intégrité territoriale, les désengagements, le désarmement. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cet accord, professeur? Est-ce que c'est la fin de la guerre dans la partie est du pays?
Je pense, madame, qu'il y a lieu de dire que nous sommes dans un tournant entre les deux pays. D'ailleurs, dans la partie introductive du président Trump tout à l'heure, il a relevé que les deux chefs d'État viennent d'une région où il y a eu plus de millions de morts, notamment en République démocratique du Congo, sans perdre de vue le génocide de Tutsi au Rwanda, le fait de voir que ce qui était déjà prévu le 27 juin 2020, comme l'accord préalable et qui va être signé officiellement aujourd'hui, c'est un grand événement pour les deux pays. Évidemment, il y a un peu de pessimisme de la part de nombre de Congolais. Pourquoi? Parce que d'une manière perlée, la violence continue et les gens s'interrogent, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la signature de l'accord aujourd'hui va mettre fin brutalement ou brusquement à cette violence? Je dois dire, premièrement, que c'est la première fois, madame, depuis bien longtemps, qu'une grande puissance comme les États-Unis prenne part à la médiation dans le conflit de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Et je rappelle pour les jeunes qui ne le savent pas, les États-Unis ont été l'un des pays ou l'une des grandes puissances qui avait signé l'acte de Berlin qui a créé l'État indépendant du Congo en 1885. Et voilà, plus tard aujourd'hui, l'Amérique se souvient que le Congo existe et comme elle est déchirée par les guerres, il faut être à son chevet. C'est un événement, il faut le saluer parce que depuis que ces millions de Congolais sont morts, on n'a pas vu une grande puissance tendre la main à la République démocratique du Congo et proposer sa médiation. Et donc, alors, quel est l'enjeu de cet accord, madame?
Allez-y.
Naturellement, l'enjeu, c'est la paix. Alors, qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est quelque chose qu'on doit construire. Contrairement à la légende, à l'esprit de beaucoup de gens, la paix, ce n'est pas un donné naturel. On ne peut pas se baisser et ramasser la paix. La paix doit être construite, et pour la construire, il faut des volontés, il faut des oppositions, et souvent, il faut la violence. Il y a des morts, des blessés, des personnes déplacées, et c'est ça qui va être le ciment de la paix. Si la volonté des deux dirigeants, au-delà de quelle se trouvent des populations diverses, que ce soit à la frontière ou à l'intérieur de la République démocratique du Congo ou dans l'ensemble de l'Est de la RDC, il y a des millions de gens qui ont perdu leur vie. Donc, l'engagement d'aller vers la paix, c'est-à-dire mettre fin à la guerre, c'est un événement. Si les deux dirigeants qui prennent l'engagement au nom de leur peuple tiennent leurs promesses, on peut penser que c'est la première étape, bien sûr, comme dans toute démarche de la paix, c'est au moment où on annonce la paix que la violence redouble d'intensité parce que les belligérants, chacun veut, le jour où on parle de la paix, qu'on parle de lui ou de montrer ses muscles. Cela ne peut pas obscurcir l'horizon qui s'ouvre devant nous.
Alors, sur le terrain, vous l'avez dit, professeur Moïla Tchiembe, c'est vrai qu'à Washington, on signe ou on entérine cet accord de paix de Washington. Ceux qui sont sur les terrains, je parle de l'AFC M23 qui occupe une bonne partie du nord et du sud Kivu, disent ne pas être concernés par ce qui se passe à Washington.
Par réalisme, j'ai toujours soutenu l'idée qu'il faut dissocier l'accord entre les deux pays, le Rwanda et la RDC, et l'accord entre Congolais. Dans la mesure où, à Doha, ce sont des Congolais qui, à tort ou à raison, ont pris les armes contre leur propre pays, au nom des intérêts réels ou supposés, ça continue à Doha. Mais le Rwanda, c'est un pays voisin. Le Rwanda ne fait pas partie de la République démocratique du Congo.
Mais puisqu'on dit que c'est le Rwanda qui est derrière l'AFCM 23.
Non, je ne parle pas de M23 en tant que tel, comme groupe. Le Rwanda est un État souverain. Les Nations Unies, dans un rapport incontesté aujourd'hui, ont fait la démonstration que les forces rwandaises, militairement, occupe une partie du territoire de la République démocratique du Congo. C'est incontesté aujourd'hui parce qu'à l'époque, le président Kagame disait que c'était des mensonges et que la République démocratique du Congo, les dirigeants congolais racontaient des bobards. Aujourd'hui, c'est avéré. Donc, quel est l'enjeu, madame? Si le président de la République démocratique du Congo n'était pas allé à Washington pour signer cet accord, ou si il ne fait rien dans les obligations que le Congo doit assumer, l'enjeu primordial, qui est un risque majeur, les forces rwandaises sont sur le territoire de la République démocratique du Congo. On parlait de la balkanisation il y a quelques années. Dès lors que les armées d'un État voisin occupent une partie du territoire de la République démocratique du Congo, les choses sont gravissimes parce que la souveraineté de la République démocratique du Congo est remise en cause. Donc, par conséquent, signer cet accord entre les États, de mon point de vue, est primordial que l'accord qui viendra entre Congolais, l'accord de Doha. Pourquoi? Parce que si la République démocratique du Congo et ses dirigeants n'entreprennent rien et que les forces rwandaises sont déjà sur le territoire de la République démocratique du Congo, la balkanisation, madame, sera en route. Là, dans un an, imaginez-vous si la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, jusqu'à Bunagana, c'est-à-dire à la frontière avec le Rwanda, l'Ouganda, si ça dure 4, 5, 10 ans, qu'est-ce qui se passera? Ce sera la véritable balkanisation. Donc, il y a là, madame, quelque chose de primordial, non seulement pour le président qui signe, pour l'ensemble des Congolais. Les gens doivent se mobiliser pour demander à leur propre gouvernement d'appliquer l'accord, et la meilleure manière de l'appliquer, c'est de montrer que la République démocratique du Congo ne finance pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour le président Kagame et le Rwanda, l'enjeu primordial, c'est le départ des FDLR qui rentrent dans leur pays. À tort ou à raison, le président Kagame considère que aussi longtemps que cette portion du génocidaire, qu'il soit 10, 20, 1000 ou 2000, il pense que c'est une menace existentielle pour le Rwanda. Il faut que ces gens partent. Or, ces individus, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Et ces gens ont été acceptés par la République démocratique du Congo à l'époque de Mobutu, sur demande des Nations Unies, au lendemain du génocide rwandais. Par conséquent, ils ont le statut des réfugiés, madame. Donc, ils sont sous le commandement, au sens de protection internationale, des Nations Unies et du HCR.
Mais professeur, on va y aller un peu rapidement parce que on a d'autres invités dans cette émission. Alors, mais de l'autre côté, le Rwanda accuse la RDC de pouvoir utiliser ces FDLR pour déstabiliser le pays de Paul Kagame. Donc, c'est vrai que dans...
Raison pour laquelle, madame, excusez-moi de vous couper, raison pour laquelle la neutralisation des FDLR, ce n'est pas seulement un projet du Rwanda ou une demande du Rwanda. C'est la condition sine qua non pour la République démocratique du Congo de lever l'équivoque sur ces gens et l'hypothèque qui donne raison à Kagame de dire, mais vous voyez, les génocidaires sont là. D'ailleurs, à l'époque, le président Kagame accusait Mobutu d'alimenter, d'armer ces jeunes gens pour qu'ils reviennent prendre le pouvoir à Kigali. Donc, merci. L'objectif primordial, la neutralisation de l'air, ne doit pas être considérée par la République démocratique du Congo et ses dirigeants comme une manœuvre.
Merci,
non.
Professeur. On vous garde encore.
Les gens doivent être neutralisés.
Merci beaucoup. On va vous redonner la parole, professeur Bob Kabamba, politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Professeur, qu'est-ce que vous pensez ou que pensez-vous de cet accord qui va être signé entre ou entériné par le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, un accord qui s'appuie sur la déclaration des principes signée le 25 avril 2025. Est-ce une victoire pour la RDC, pour la diplomatie congolaise?
Merci pour la question, madame. C'est qu'il faut toujours se remettre dans le contexte. Cet accord qui va être signé tout à l'heure n'est que la poursuite de la déclaration de principe qui a été signée donc au mois de juin de cette même année. Principalement sur son point 6, qui recommande effectivement que les deux pays doivent s'engager à mettre ce qu'on appelle un cadre d'intégration économique régionale. Et ce cadre d'intégration régionale est basé sur les questions minières avec des chaînes d'approvisionnement, avec la question de l'énergie, la question du tourisme, etc. Et donc ici, ce n'est que la continuité au fait de ces déclarations de principe. Et ça n'a rien d'historique par rapport, comme on est en train de vouloir le dire, ça n'a rien d'historique. Ce n'est pas non plus un événement majeur. Je dois signaler que les États-Unis sont déjà intervenus à plusieurs reprises dans plusieurs résolutions de conflits en RDC, depuis d'ailleurs l'indépendance du Congo, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, et jusque même au niveau même de départ de maréchal Mobutu en 1996. Et donc ce n'est pas une première de voir les États-Unis pouvoir s'intéresser à la RDC. Ici, c'est beaucoup plus particulier, c'est que les États-Unis s'intéressent à la RDC uniquement sur la question des ressources minières et aussi sur la question d'embêter un petit peu les Chinois, parce que l'on sait très bien que la plupart des minerais stratégiques qui intéressent les États-Unis sont exploités par la Chine. Je dois rappeler qu'ici, que sur 54 grandes entreprises minières qui exploitent les ressources minières du Congo, 52 sont chinoises. Alors, ce qu'il faut en penser, c'est qu'il y a quand même plusieurs problèmes qui se posent. Premièrement, lorsque l'on parle des accords, ça veut dire que c'est des engagements d'État à État. C'est-à-dire qu'un État s'engage dans le cadre d'une négociation et parvient à signer un traité, et cet accord, ça peut être un traité ou ça peut être un accord, ou on appelle généralement un ajustement juridique. Alors, pour que cet ajustement juridique, ce traité soit mis en œuvre, il est importantissime que ce traité soit, entre guillemets, entériné et accepté et ratifié par les différentes institutions habilitées à le faire, tel que c'est défini par la Constitution. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est qu'on a eu effectivement, dans un premier temps, cet accord qui a été signé, mais l'accord, donc, sur la déclaration des principes qui a été signé, n'a pas été discuté, n'a pas été échangé, n'en a, à part les bribes que vous avez vu bien pouvoir alimenter. Le Parlement qui représente la population, qui représente la représentation nationale, n'a pas non plus été consulté. Alors ici, on a une signature qui rentre dans la même logique. Donc on va signer encore une traité, et ce traité va être signé sans nécessairement avoir les outils juridiques qui vont accompagner la mise en œuvre de ce traité. Alors quand je compare, il s'agit d'un traité bilatéral, donc entre les deux pays. Ça veut dire que ça engage les deux pays. Quand je regarde le processus tel qu'il s'est passé au Rwanda, que je compare le processus comment il s'est passé au niveau du Congo, je me trouve bien qu'il y a véritablement un souci du fait que certainement que cet accord qui va être signé ne pourra pas être mis en œuvre, parce qu'il faudrait que le Parlement puisse les ratifier pour que ça puisse devenir en droit interne. Par ailleurs aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que les accords, il y en a déjà eu, beaucoup qui ont été signés, d'autres conventions qui sont mises en œuvre, notamment sur les questions économiques, dans le cadre, par exemple, de la CPGL, dans le cadre de la CIRGL, dans le cadre des East African Community, dans le cadre de la SADC, dans le cadre de CAC. Et donc, il y a déjà des dimensions économiques qui existent. Donc, de mon point de vue, il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ce qu'on connaît comme arsenal juridique, arsenal de conventions que la RDC a déjà signé, et pour lesquels, pour une bonne part, oui, on signe, et la mise en œuvre pose toujours problème. Donc, en conclusion, ce que j'aurais tendance à dire, qu'on a plus l'impression que la pression de la signature n'est pas du fait du Congo, n'est pas du fait du Rwanda, mais du fait de la volonté des États-Unis. Et que pour les États-Unis, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la photo au bureau ovale, en fait, des deux présidents, et comme ça, le président Trump pourra ajouter sur son CV, dans le cadre de la candidature, de sa candidature pour le prix Nobel de la paix, en disant qu'il a réussi à ramener la paix au Congo, à mettre fin à ce conflit qui a commencé il y a plusieurs dizaines d'années et qui était d'abord un conflit local, et que ce local est devenu provincial, national, régional, international. Et voilà, donc,
vous rejoignez la réaction d'un auditeur, Samy, qui nous écrit depuis Limité ici à Kinshasa, qui estime que le champion dans cet accord, c'est Donald Trump, qui attend son prix Nobel de la paix.
Et c'est tout à fait ça. Il n'y a pas que pour le dossier congolais, il y a aussi d'autres dossiers, le dossier ukrainien, le dossier de Gaza, etc. On a tous vu que c'est la même méthodologie qui est utilisée. C'est une méthodologie qu'on appelle de contrainte lorsque, effectivement, l'on est en présence d'une force qui est capable de pouvoir imposer son point de vue. Et cette force ramène et convoque la plupart des gens, en convoquant tous ces gens pour qu'ils puissent signer devant lui. Donc le maître demande justement à des sujets où il y a des enfants qui sont en train de se battre, de pouvoir cesser, sans nécessairement chercher à résoudre les problèmes qui sont à l'origine du conflit. Puisque eux, ils partent de l'hypothèse que si on fait du commerce et qu'on développe que les matières premières quittent le Congo et vont aux États-Unis pour être utilisées dans les cadres de nos téléphones, etc., on va résoudre les problèmes congolais. Non, ce n'est pas uniquement les questions économiques, les questions des minerais qui sont à l'origine, qui sont parmi les causes de ce conflit. Et donc, prendre le problème congolais, le problème de la région de cette dimension-là, je pense véritablement que c'est trompé. Et donc, dès qu'on aura signé et que les lampes se seront éteintes à Washington, ben, vous allez voir que demain, après-demain, dans les mois qui suivent, il n'y aura pas de changement. La situation va rester celle-là. Et que si la situation reste celle-là, vous devez vous rendre compte que la situation reste là, ça veut dire que la situation sera figée. La situation est figée, donc nous allons avoir deux entités. On a d'une part ceux qui sont à Kinshasa, d'autre part on a ceux qui sont à Goma, Bukavu, et dans les territoires qui sont occupés par l'AFC M23. Je vous rappelle aussi que dans la gestion de cette entité, vous avez remarqué que de plus en plus, l'AFC M23 est en train de mettre en place toute une machine de gestion de cet espace. Et cette machine, ce n'est pas une machine simple, c'est une machine étatique, c'est-à-dire il y a une dimension politique, vous avez une dimension d'administration, vous avez une dimension de police, vous avez une dimension d'armée, et vous avez une dimension de justice qui est en train de se mettre en place et pour pouvoir gérer les 12 millions d'habitants qui sont maintenant sous le contrôle de la FCM23 pour plus ou moins 50 000 kilomètres carrés. C'est déjà plus qu'un État. Et donc, on va véritablement, et lorsque Kinshasa refuse que les documents de Kinshasa ne sont plus, la FCM23 décide que les documents de Kinshasa ne sont plus acceptés à l'Est et de vice versa. Et donc, on est dans les temps quoi? On est en train d'aller dans la consolidation de ce que l'on peut déjà voir comme une ébauche de tentative de balkanisation. Et de mon point de vue, si la situation reste figée, elle va rester figée.
Merci.
Et que nous aurons cette situation de deux entités qui auront chacune une légitimité quelconque.
Caris Bassoko, vous êtes coordonnateur du réseau Pona Congo et membre de la coalition de la société civile pour le dialogue. Vous avez publié un communiqué hier intitulé RDC sans dialogue national inclusif, les accords de Washington et de Doha ne mèneront pas à une paix durable. Est-ce que ça signifie que ce qui se passe à Washington aujourd'hui n'est pas une garantie que la paix va revenir dans la partie est de la RDC?
Très clairement non, ce qui se passe aujourd'hui à Washington n'est pas une garantie de paix, car l'impératif c'est la paix. Nous aurions donné beaucoup de chance à cet événement de Washington si les étapes préalables fixées lors du PARAF le 27 juin à Washington avaient déjà été respectées. Il y a plusieurs étapes qui avaient été fixées, notamment la neutralisation des FDLR. Est-ce qu'il y a un début de neutralisation quelconque? La réponse est très clairement non. Les retraits ou la levée des mesures défensives du côté du Rwanda, est-ce qu'il y a un début de retrait des troupes rwandaises? La réponse est clairement non. Au-delà de cela, il y a la cristallisation d'un prétexte suprême, comme nous l'appelons souvent, c'est le prétexte des FDLR. Depuis 1998, le Rwanda utilise ce prétexte pour attaquer la RDC. Ce n'est pas le premier accord de paix que nous signons avec le Rwanda. Le 30 juillet 2022, nous avions signé un accord de paix avec le Rwanda, appelé accord de Pretoria, où les termes étaient presque identiques. C'est cela aussi notre problème. Nous n'avons pas toujours la mémoire vive des événements qui nous affectent. Un accord de paix avait déjà été signé en 2002. 23 ans après, nous parlons encore d'un rétablissement de la paix. Dans cet accord de paix, il s'agissait également des retraits de troupes rwandaises. Il s'agissait également de la neutralisation ou des efforts qui devaient être faits du côté congolais pour pouvoir identifier les FDLR et faire en sorte qu'ils soient rapatriés au Rwanda. Cela n'a jamais été atteint. Et parlant des FDLR, on dit que ce sont les anciens génocidaires arrivés au Congo en 1994. La plupart d'entre eux aujourd'hui ont la cinquantaine. Qui combattent réellement ? Sont ces soldats-là de la cinquantaine ou des jeunes peut-être nés dans les camps des réfugiés recrutés sur place qui pour certains auraient peut-être l'identité rwandaise. La question des FDLR est à notre sens une nébuleuse où on a du mal même à identifier là où ils se trouvent très clairement. Donc parler de la neutralisation des FDLR, c'est entrer dans le piège du Rwanda, ces pièges qu'ils nous ont tendu il y a plus de 30 ans et qui est en train de se refermer sur nous. Voilà ce que je peux dire.
Alors, dans votre communiqué, vous dites que ces processus, j'imagine, d'Ottawa et Washington ont écarté des acteurs et des aspects clés des conflits armés et de l'instabilité.
Absolument. La résolution de la crise congolaise doit être holistique, doit être globale et doit prendre en compte toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs pensent que pour résoudre cette crise, il s'agit de mettre sur la table la RDC, le Rwanda, le M23, en l'occurrence accord de Washington et accord de Doha. Mais qu'est-ce qu'on fait des populations meurtries qui subissent aujourd'hui ces violences ? On parlait des violences encore hier et avant-hier à Mwenga, à Kaziba, Mwenga Centre, à Kaziba, à Kamaniola, aux environs, aux abords d'Uvira. Est-ce que ces populations, ce soir, dormiront en se réjouissant ou avec l'esprit calme que nous avons obtenu l'accord de paix? Non, nous estimons que nous devons régler le problème autour d'une table.
Mais ce n'est pas en un jour que la paix va revenir, c'est un processus.
Carlis
Bassoko.
C'est un processus, comme vous le dites, et je vous ai rappelé les étapes fixées par ces mêmes accords le 27 juin, avec un calendrier précis, ces étapes qui n'ont jamais été respectées. Alors, dans quelle mesure, à partir d'aujourd'hui, on aura la paix dans les jours à venir?
Professeur Maïla Tchiembe, il y a un auditeur qui nous écrit depuis Beni au Nord Kivu, il s'appelle Sylvain. Il estime que tant que ces dispositions ne seront pas contraignantes, la guerre va se poursuivre.
Oui, madame. Que ce compatriote pense que la guerre va se poursuivre, c'est une possibilité. Mais permettez-moi de dire que la paix, depuis la nuit des temps, on fait la paix avec les ennemis, on ne fait jamais la paix avec les amis. Nombre de Congolais sont dans l'illusion. Souvenez-vous du discours contre la MONUSCO. Il faut que la MONUSCO parte, il faut que la MONUSCO fasse. Vous connaissez notre position. Qu'est-ce qui s'était passé? Ces Congolais, de bonne foi, ont pris la position du Rwanda. Le Rwanda voulait que la MONUSCO soit évacuée de l'Est pour mener l'action qui aboutit à la prise de Goma et je ne veux pas aller plus loin. Alors, le même propos que vous entendez, les gens disent on signe un accord. Quel est le contenu de l'accord? C'est ignorer le droit. Vous signez un accord sur quelques éléments, notamment la neutralisation des FDLR. On vient de vous dire, oui, tout ça c'est des mensonges, ça ne sert à rien. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'accord entre les parties? Il faut, le professeur Kabamba a parlé tout à l'heure, de la ratification. Mais la ratification en droit congolais, qui a qualité de ratifier? C'est le président de la République, en premier, l'article 213 de la Constitution, soit le gouvernement, le même article, alinéa 2, si le président de la République considère qu'il s'agit d'un accord simplifié, c'est-à-dire un accord qui ne peut pas être soumis au processus normal de ratification. La signature du gouvernement en conseil des ministres vaut ratification. Ou alors l'article 213 de la Constitution, 214. Si, comme le nom l'indique, c'est un accord de paix, en droit positif congolais, notamment dans la Constitution, un accord de paix ne peut être ratifié que par le Parlement parce qu'il relève de la loi. C'est clair. Le président de la République peut, s'il estime que c'est un accord simplifié, notamment en se fondant sur les pouvoirs que lui donne l'article 69, en tant que protecteur de la Constitution, il peut considérer que l'intérêt du pays, il faut aller vite, il peut le faire. C'est légal. Mais comme il y a un nom dans l'accord qui les désigne comme un accord de paix, il n'a pas qualité, si c'est un accord de paix, par sa signature, cette signature ne peut pas avoir la ratification. Il le signe, puisque c'est la qualité que lui donne la loi, et il doit remettre ces documents, donc ce traité, cet accord, devant le Parlement. C'est le Parlement, par la loi, qui a qualité pour ratifier les accords de paix. C'est clair.
Donc on ne peut pas, le jour où on signe... Mais ça n'a pas été fait chez nous.
Madame, on est en train de signer l'accord solennellement.
Ça se fait en amont. On informe le Parlement en amont ou bien c'est après la signature qu'on va remettre les documents
au Parlement. Excusez-moi. Dans la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est le président de la République qui négocie les traités. L'article 213. Il négocie et on regarde quelle est la nature du traité ou de l'accord signé. Si c'est un accord simplifié, comme j'ai indiqué tout à l'heure, qui n'est pas nécessairement soumis à la ratification, la signature en Conseil des ministres peut valoir ratification. C'est la loi. Mais si c'est un accord de paix, comme c'était indiqué dans le titre, le président de la République n'a pas qualité de ratification. Il signe, comme il est en train de le faire, et il doit soumettre cet accord au Parlement, parce que la ratification d'un accord de paix relève de la loi. Or, la loi, dans la Constitution de la République démocratique du Congo, ne relève pas de la compétence du président. Il ne faut pas confondre les choses.
Merci.
Je sais que tout le monde le sait.
Merci, professeur Moïla Moussa Mbaye Salibiko. Ruben, depuis Kisangani, je pense que l'accord de Washington représente ou présente une victoire politique et diplomatique majeure pour la RDC et pour le président Félix Tshisekedi, pour la première fois sous l'œil de la communauté internationale et sous la médiation directe du président américain, le Rwanda est officiellement amené à reconnaître sa responsabilité, à s'engager noir sur blanc à retirer ses troupes du territoire congolais. C'est un tournant historique qui met à nu de manière incontestable la réalité de l'agression contre notre pays. Professeur Bob Kabamba.
Je ne sais pas si c'est quel texte qu'a lu l'auditeur qui fait son interprétation de ce texte. Je ne pense pas, de mon point de vue, qu'il s'agit d'une victoire diplomatique, etc. Parce que ici, dans le cas présent, c'est, on va dire, c'est véritablement une initiative des États-Unis qui impose le calendrier, qui impose l'agenda et qui impose aux belligérants de faire ce que les États-Unis veulent. On va dire, c'est que simplement par rapport à la photo, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une ligne supplémentaire sur le CV de Donald Trump. C'est plutôt, on pourra dire que oui, c'est une victoire pour Donald Trump, pas nécessairement une victoire pour le Congo. Et par rapport à ça, en disant que le Rwanda il reconnaît, etc., et tout ça, bon, en lisant le texte, ben oui, du côté congolais aussi, on reconnaît qu'il y a des FDLR, etc., et qui sont pas partie toute une série d'autres dimensions qui sont explicitées dans ces différents accords. Et donc, pour ma part, je ne dirais pas que c'est une victoire qui constitue un tournant. Et la preuve, c'est que du côté, même si on sait bien que ici, nous sommes dans la dynamique Rwanda-Congo, on n'est pas dans la dynamique Rwanda, Congo et AFC M23, mais du fait du soutien de l'AFC M23 par le Rwanda, faire en sorte que le Rwanda devient aussi un acteur dans le cadre du contexte congolais de manière précise. Et alors les résultats de ça, c'est que nous avons sur le terrain la reprise des hostilités, comme vous l'avez dit dans l'introduction, les combats se poursuivent dans le sud Kivu et dans le nord Kivu, et c'est pas des escarmouches, c'est véritablement de combats à l'arme lourde et où les populations qui sont toujours les victimes de ce genre de situation. Et donc cette situation risque de pouvoir perdurer et ça perdure, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes en train d'assister à la consolidation de deux entités qui vont être des entités dont une entité de fait qui est le territoire occupé par l'AFC M23, et de l'autre côté, on aura les autorités de la République démocratique du Congo. Je dois rappeler quand même que nous sommes déjà pratiquement au mois de décembre et que la dynamique de reconquête de territoire a commencé maintenant depuis quand même plusieurs années, plusieurs mois et même années, et qui se poursuit et qui se consolide. Et lorsque vous avez dans tous les systèmes politiques, dans tous les systèmes de rébellion et de guerre civile, lorsqu'effectivement il y a enlisement, c'est parce que tout simplement cet enlisement parvient à satisfaire les différents belligérants. Et que l'enlisement satisfait la rébellion, l'enlisement satisfait le gouvernement congolais, l'enlisement satisfait le gouvernement américain qui va faire signer cette convention, ce traité, cet accord, et l'enlisement satisfait tout le monde. Malheureusement, cet enlisement ne satisfait pas la population congolaise et les populations qui sont victimes en premier de ces exactions.
On va prendre un auditeur qui est en ligne, qui nous appelle de Kinshasa, voilà. Il est à Kinshasa, on va écouter cet auditeur de Kinshasa.
Docteur Michael Bolingo Sebdesi, à partir de la ville de Kinshasa. Le peuple congolais salue vivement le contenu de cet accord. Néanmoins, la crainte réside dans le fait que nulle part où le retrait du M23 est signalé, moins encore le délai de retrait des troupes rwandaises dans les zones occupées. D'où nous demandons que les États-Unis puissent mettre un délai et une mesure contraignante à la partie qui ne va pas respecter cet accord. Ma question est de savoir, le dialogue inter-congolais que l'Église catholique et les protestants ont proposé ne sera pas mis en application par le gouvernement congolais, car les rebelles ont le plein droit de s'opposer au résultat de Washington car n'étant pas convié au processus. Il remarque que Doha a couché une souris. Nous craignons pareil pour les États-Unis. Nous demandons au président de la République de ne pas sortir à Washington tant que les troupes rwandaises et les M23 sont encore sur le sol congolais.
Alors, Caris, comment vous réagissez au propos de cet auditeur de Kinshasa?
Comme l'auditeur l'a dit, Doha a accouché d'une souris. Nous demandons encore à voir, car plusieurs protocoles avaient été fixés. La crainte pour lui, c'est de voir également que Washington accouche d'une souris. Vous voyez que ces craintes sont habitées par tous les événements que nous avons subis dans le passé et tous les accords qui ont été signés. Et tous les cessez-le-feu qui ont été proclamés et qui n'ont jamais été respectés. Nous estimons que pour pousser tous les Congolais à réellement atteindre la paix, il est important que nous nous mettions tous autour d'une table et que nous puissions analyser quelles sont les causes profondes de ces conflits répétitifs. Sinon, nous signerons cet accord. Dans 10 ans, nous allons revenir pour signer un autre accord avec le Rwanda. Dans 20 ans, nous allons revenir pour signer un accord avec le Rwanda. Et nos populations continueront d'être les premières victimes.
Alors, vous qui prenez le dialogue, vous qui êtes pour un dialogue inclusif, vous demandez même aux États-Unis, au Qatar, à l'Union africaine et à l'ensemble de la communauté internationale d'exercer une pression sur le président Félix Tshisekedi afin qu'il convoque urgemment un dialogue national véritablement inclusif. Pensez-vous que ce dialogue viendra mettre fin à la guerre?
En 2002, c'est le dialogue de Sun City qui a entériné la fin de la guerre, qui a consacré la fin de la guerre. N'eût été ce dialogue, tous les accords qui avaient été signés, l'accord de Pretoria, l'accord de Sirte, l'accord de Lusaka, n'allaient pas trouver leur effectivité sur le terrain. Il a fallu qu'on mette autour de la table les belligérants, la société civile, les organisations représentant ces populations meurtries et déplacées. Il a fallu qu'ils s'assoient autour de la table pour estimer, pour voir, envisager les voies et moyens efficaces pour arriver à la paix. Et contrairement à 2002 avec l'accord de Sun City, nous estimons qu'il est important que non seulement que nous puissions nous asseoir, mais essayer de corriger ce qui n'a pas été. Parmi les prétextes avancés par ceux qui, de façon répétitive, créent la guerre, ils disent qu'il y a une partie des Congolais, par exemple, qui ne se sentent pas pleinement Congolais, qui sont rejetés. Il est important que nous puissions traiter clairement ces questions. Ça fait partie des reliquats de Sun City de 2002, raison pour laquelle nous prônons le dialogue inclusif nationale. Que nos positions ne soient pas motivées par la peur. Il semble que Kinshasa ait peur d'un dialogue qui remettrait en cause certains acquis, certaines choses établies, notamment la légitimité du président de la République. Nous n'avons jamais dit que nous appelons à un dialogue qui remettrait en cause le mandat du président de la République. Nullement. Nous voulons nous asseoir pour réfléchir aux moyens d'aboutir à une paix véritable. Non pas une paix de 5 ans, de 10 ans, mais une paix permanente.
Merci, Karis Bassoko. Et là, à Washington, c'est fait. Les deux présidents viennent d'entériner l'accord de paix de Washington devant le président Donald Trump. Président des États-Unis, professeur Moïla Tchimbe, puisque nous tendons vers la fin de cette émission, il y a quand même beaucoup de Congolais hein, qui restent assez sceptiques quant à la mise en œuvre de tous ces engagements pris, que ce soit à Washington ou à Doha. Est-ce que cela peut s'expliquer? Pourquoi ce pessimisme de ces Congolais quant à l'application de ces engagements?
Ce sont des partisans de la balkanisation. Mais ils cherchent les mots qui ne concordent pas avec ce qu'ils veulent dire réellement. Vous voyez le Rwanda, qui de ceux qui prétendent nous allons négocier, qui va convoquer le Rwanda pour lui demander de retirer son armée? Vous en connaissez un? Le fait qu'il y a détournement des deniers publics, le pays est mal gouverné. Vous avez discuté de ça avec le Rwanda? Tous ceux qui racontent tout ça, madame, ce sont des partisans de la balkanisation. Et comme ils ne peuvent pas se lever publiquement et dire qu'ils veulent la balkanisation, ils prennent les chemins de tournée. L'accord d'aujourd'hui, c'est entre deux États souverains. Ils confondent le projet de dialogue des prêtres. Mais les prêtres sont des Congolais. Ils demandent que tous les Congolais discutent. Vous pensez qu'on peut convoquer tous les Congolais avec le gouvernement rwandais? Mais c'est manquer même le réalisme. D'abord, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un accord. Un accord international lie les États. Vous convoquez le Rwanda, vous convoquez le Burundi avec quelques Congolais de Kivu ou de Kasai, etc., pour aller faire un accord, ça n'existe pas. Les gens sont en train de rêver. Je pense que le réalisme, c'est de tenir compte des faits. On ne peut pas convoquer le Rwanda et demander au Rwanda d'aller signer un accord avec les Congolais. Mais quel Congolais? Qui est-ce qui a mandat pour parler au nom du Congo et de lier le Congo par sa signature? Qui? Tous ceux qui parlent, associations, militants de ceci ou de cela, droits de l'homme, vous pensez que vous avez qualité pour signer et engager par votre signature la République démocratique du Congo devant le monde? Ça n'existe pas. Ce sont des rêves des gens.
Alors,
Ce sont les partisans de la balkanisation.
Alors, nous sommes en train de suivre en direct la cérémonie hein, à New York. Les deux présidents ont signé, mais l'expression du visage de ces présidents, que ce soit rwandais ou congolais, aucun sourire. On a l'impression qu'ils sont crispés, qu'ils ont le visage rempogné. Est-ce qu'on peut croire vraiment à l'accord qui vient d'être signé?
Lorsqu'un accord est signé, l'accord est un acte de volonté. S'il y a lieu de l'appliquer, c'est la volonté des autorités congolaises et les autorités rwandaises. S'ils ne veulent pas l'appliquer, c'est ça le drame congolais ou le drame africain. On signe un accord, il y a les termes de l'accord. On ne les applique pas. Alors on vient vous raconter, oui, l'Amérique cherche les minerais, etc. Mais bon sang, chercher les minerais, vous pensez que si l'Amérique n'a pas les minerais du Congo, l'Amérique va disparaître? Et même avoir un accord sur les minerais avec la République américaine, avec la République démocratique du Congo, avec le Rwanda. Si c'est un acte souverain des États, l'accord est signé, il est paraphé ou, proclamé par le Parlement congolais,
merci,
ratifié. Il y a débat, les Congolais verront qu'est-ce qu'il y a dedans.
Merci.
Non, mais ça ne sert à rien de raconter des histoires.
Alors, merci, professeur Moïla Tchimbe. Professeur Bob Kabamba, la cérémonie vient de prendre fin. Pas de poignée de main entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Comment interpréter cela?
Ben, vous savez, lorsque l'on a, dans le cadre des processus de négociation, généralement, on a ce qu'on appelle des actes symboliques qui marquent émotionnellement et qui marquent au-delà de la signature de documents. C'est des actes symboliques qui sont, par exemple, serrer la main, serrer faire des accolades, etc., qui sont des actes symboliques qui marquent, etc. S'il n'y a pas ces genres de signes dans le cadre des processus de négociation, on peut déjà y voir que, ben oui, ça veut dire que la signature de cet accord s'est faite sous contrainte de la présidence américaine pour exiger que les deux présidents puissent signer. Et nous savons très bien que cet accord va rester comme les autres accords, lettre morte, sans pouvoir aucune concrétisation sur le terrain. Et avec comme conséquence, c'est que les populations civiles continueront de pouvoir être les victimes, malheureusement. Jusqu'à ce que sur le terrain, il y ait un changement des rapports de force. S'il y a un changement des rapports de force, là, effectivement, on verra juger si, véritablement, on veut qu'il y ait la paix, ou bien si on veut qu'il y ait ça reste statu quo avec ces deux entités, comme je l'ai expliqué tout au début. Donc voilà un peu ma conclusion.
Merci, professeur Caris. Votre conclusion, c'est fait. L'accord a été entériné par les deux chefs d'État. C'est que la population attend aujourd'hui, c'est sa mise en œuvre.
Au-delà de cette solennité à Washington, vous avez décrit les mines sont fermées de deux présidents, donc on a du mal à penser qu'il y aura réellement application de cet accord sur terrain. Nous prenons l'unité des Congolais. L'unité des Congolais comme préalable aux démarches extérieures. L'unité des Congolais comme préalable aux conclusions des accords avec le Rwanda. Je vous le rappelle, ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe à Washington. C'est ce qui se passe à Mwenga, c'est ce qui se passe à Kamanyola, à Uvira et dans toutes les zones occupées. Nous devons faire en sorte que ces populations puissent retrouver la paix.
Merci Caris Bassoko, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine, et donc Katumbi, Pierre Dassinois, Jonathan Fanani, Guy Maté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.